Le livre de Frog. Roman,
discussion,
échange,
livre.
Le livre de Frog.
Littérature,
livre,
page,
invité,
marque-page.
Le livre de Frog. Vous êtes toujours sur Radio Grenouille, c'est maintenant l'heure du livre de Frog. Aujourd'hui, le livre de Frog a l'immense plaisir d'accueillir Alexis Nuzelovici, professeur de littérature comparée à l'université d'Aix-Marseille. Il a emmené avec lui pour cette dernière émission de la saison « Choix de poèmes » de Paul Celan. On écoute tout de suite un enregistrement de Paul Celan lisant en allemand « Psaume », puis la traduction lue par notre invité.
Psalm. Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unsern Staub. Niemand. Gelobt seist du niemand. Dir zulieb wollen wir blühen. Dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir. Werden wir bleiben, blühend, die Nichts, die Niemandsrose. Mit dem Griffel seelenhell, dem Staubfaden himmelswüst, der Krone rot, vom Purpurwort, das wir sangen, über, o oh, über dem Dorn.
Personne ne nous pétrira de nouveau de terre et d'argile. Personne ne soufflera la parole sur notre poussière. Personne. Loué sois-tu, personne, c'est pour te plaire que nous voulons fleurir à ton encontre. Un rien. Voilà ce que nous fûmes, sommes et resterons, fleurissant. La rose de néant, la rose de personne. Avec le style lumineux d'âme, le filet d'étamine, ravage de ciel, la couronne rouge du mot pourpre que nous chantions au-dessus, au-dessus de l'épine.
Alexis Nuzelovici, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et surtout merci d'être là. Merci, c'est un vrai plaisir pour nous parce que de vous accueillir au Livre de Frog, surtout que ça n'a pas forcément été facile, mais nous sommes ravis de pouvoir enfin faire cette émission avec vous. Alors pour vous présenter rapidement, vous êtes actuellement professeur de littérature générale et comparée à l'université d'Aix-Marseille, après avoir notamment enseigné à l'université de Cardiff et à l'université de Montréal. Vous dirigez également l'initiative de recherche Non lieu de l'exil au Collège d'études mondiales à Paris et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Je n'en citerai aujourd'hui que deux, tous deux parus sous votre nom de plume, si je peux dire, à savoir Alexinus. Alors, le dernier en date, d'abord, La condition de l'exilé, penser les migrations contemporaines, qui est paru en 2015 aux éditions de la Maison des sciences de l'homme et qui est en lien direct avec vos travaux actuels de recherche sur l'exil. Et le second ouvrage que je cite est paru en 2009 aux éditions Le Bord de l'eau. Il s'agit de Paul Celan, Les lieux d'un déplacement, consacré à ce poète roumain de langue allemande que vous nous avez donc proposé de découvrir aujourd'hui à travers l'un de ses recueils de poèmes. De la poésie, donc, et c'est une première pour nous au Livre de Frog. Merci donc pour cela aussi, car on peut et on aime lire des romans. Mais grâce à cette émission, vous nous rappelez aussi que l'on peut lire de la poésie et en parler. J'en viens donc maintenant à Paul Celan, de son vrai nom Paul Hansel, poète donc et traducteur juif, roumain, germanophone, né en 1920 et mort en 1970. Il est né donc en Bucovine, l'une de ces régions que l'on peut dire ballottée au gré des heures de l'histoire, elle était en ce temps-là roumaine, après avoir fait pendant longtemps partie donc de l'Empire austro-hongrois. et qu'elle fait aujourd'hui partie, après d'autres rebondissements, de l'Ukraine. En 1942, Paul Celan est envoyé dans un camp de travail où il restera jusqu'en 1944. Quelques mois auparavant, ses parents, qui refusaient de se cacher, avaient été déportés. Son père est mort du typhus. Et selon certains témoignages, sa mère a été exécutée d'une balle dans la nuque. Donc, Paul Celan, à la fois victime et à la fois témoin, donc, de cette réalité de la Seconde Guerre mondiale et donc du génocide. À son retour, il travaille pendant quelques temps comme traducteur à Bucarest, puis il part pour Vienne avant de s'installer définitivement à Paris en 1948. Un exilé, donc, qui, toute sa vie, écrira et pratiquera la poésie, qui portera toujours et profondément donc, l'écho de la Shoah, dont il a été à la fois témoin et victime. Paul Celan écrit en allemand, on l'a entendu, dans une langue qu'il fait éclater, qu'il déconstruit, qu'il tord et qu'il retord. Et pour présenter cette œuvre rapidement, je reprendrai les mots de Jean-Pierre Lefebvre, donc, qui est donc le traducteur de l'édition que vous nous avez proposée, qui dit dans son introduction « Avant même qu'il soit formulé, la poésie de Paul Celan répond à la provocation de l'interdit d'Adorno, qui disait donc que l'on ne pouvait plus écrire de poèmes après Auschwitz, en développant une poésie qui n'est pas celle de l'après Auschwitz, mais qui est d'après Auschwitz, d'après les camps, d'après l'assassinat de la mère, d'après les champs d'Imbragaz, au sens où d'après veut également dire en fonction de. » C'est donc un condensé de cette poésie de Celan d'après Auschwitz, que vous nous avez proposé d'explorer à travers ce recueil intitulé « Choix de poèmes », publié aux éditions Gallimard avec une traduction, donc je l'ai déjà dit, de Jean-Pierre Lefebvre. Alors, comment présenter un recueil de poèmes? C'est un petit peu difficile. Je me contenterai donc de dire que ces poèmes, qui couvrent une période qui va de 1947, donc juste l'après-guerre, à 1967, ont tous été choisis par Paul Celan lui-même et qu'ils sont organisés en 5 parties. Donc, choix de l'auteur, donc on imagine important et significatif, dont nous aurons très certainement l'occasion de reparler, mais d'abord la question rituelle du livre de Frog. Pourquoi ce livre ?
Pourquoi ce livre pose la question de pourquoi la poésie, vous l'avez déjà posée en filigrane, pose aussi la question pourquoi la lecture et pose la question pourquoi l'écriture. Je pense que c'est un livre qui nous oblige à réfléchir à notre propre positionnement quand nous lisons de la poésie et quand nous lisons la poésie de Paul Celan. Cette poésie de Paul Celan, elle est possible, puisqu'il l'a écrite, et en même temps elle est impossible. Et ce que cette poésie de Paul Celan, difficile à lire, et sans doute difficile à écrire, cette poésie de Paul Celan, difficile à lire, nous parle de cette impossibilité de son écriture. Dans un passage de mon livre, Paul Celan, Les lieux d'un déplacement, je me laisse aller à dire mais comment et quand peut-on lire Paul Celan, puisque ses poèmes sont chargés de cette souffrance, de cette ombre, de cette douleur, et ce qui ne veut pas dire la souffrance du lecteur, c'est-à-dire que c'est une poésie témoignage, c'est une poésie qui témoigne de la souffrance. Ce n'est pas une poésie qui est destinée à faire souffrir le lecteur, mais qui est destinée à l'éveil de la conscience du lecteur. La souffrance existe, la poésie est une des voies d'expression de cette souffrance, et une fois que cette souffrance, nous en avons conscience, nous pouvons peut-être, nous dire comment mettre fin à cette souffrance. Donc ce passage, je me disais, voilà, cette poésie-là, comment la lire? On ne peut pas la lire tranquillement dans son fauteuil. Je ne peux pas lire non plus debout parce que je serais simplement dans une position d'imposture. Pourquoi la lire debout? Je ne peux pas la lire avant de m'allonger, en m'allongeant le soir avant de me coucher. Je ne peux pas la lire dans un train, certainement pas dans un train quand on sait l'importance symbolique du train, etc. Bref, je ne peux jamais lire la poésie de Celan. Et d'une certaine manière, Celan n'aurait pas pu écrire, et pourtant il l'a écrit. Et c'est dans cette impossibilité-là, je crois, que apparaît la fonction de l'écriture aujourd'hui. Je crois qu'il y a une historicité. La fameuse phrase d'Adorno, il est, non pas impossible, mais il est barbare, ce qui est tout à fait intéressant, il est barbare d'écrire de la poésie après Auschwitz. En général, on la cite en l'amputant complètement du contexte. Adorno dit, il est impossible, il est barbare, excusez-moi, d'écrire de la poésie après Auschwitz, et je paraphrase là, et cette impossibilité-là nous en dit long sur l'état de la culture, l'état de la littérature, l'état de la société après Auschwitz. C'est-à-dire que cette impossibilité-là n'est pas une impossibilité qui veut dire on ne peut pas écrire, mais on peut écrire cette impossibilité. De la même manière que Marguerite Duras, dans le prologue à Hiroshima, Mon amour, dit la seule chose qu'on peut dire d'Hiroshima, c'est qu'on ne peut rien dire d'Hiroshima, mais on dit quelque chose. Et cette responsabilité de l'écriture de certains auteurs, Paul Celan en est un, Marguerite Duras en est une autre, Samuel Beckett, je pourrais également citer ce troisième nom, oblige le lecteur à une attitude, en tant que lecteur, aussi responsable. C'est-à-dire qu'il y a dans le pacte entre l'écrivain et le lecteur quelque chose qui relève de l'éthique, et non pas du divertissement. Pourquoi ? Parce que les temps sont graves. Je veux dire, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale est grave, ce qui arrive aujourd'hui est grave en Europe, et ce qui est arrivé entre la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui n'est pas moins grave.
N'est pas moins grave. Le possible dont vous parlez, il se retrouve dans la voix, celle de Celan, la vôtre tout à l'heure, qui prend la parole pour dire ces mots qui disent l'impossible. Je voulais vous remercier de nous avoir proposé d'écouter la voix de Celan, parce que la voix de Celan et la vôtre après, c'est exactement le principe de notre émission, avec un lecteur qui vient, avec un auteur. Je voulais vous parler justement de cette voix. Il s'avère que Celan a fait de nombreuses lectures publiques. Il s'avère que c'est quelqu'un qui maîtrisait plusieurs langues, qui a été traducteur. Et en écoutant les extraits que vous nous avez proposés, alors que je ne connais pas la langue allemande, je percevais des accents dans cette voix de Celan, des accents qui lui seraient personnels, comme si on pouvait finalement, à force de l'écouter, la reconnaître vraiment. Et ça m'a fait penser à un des poèmes qu'il y a dans ce livre, qui commence par « Voix », justement. J'en cite seulement un extrait. « Voix dans l'intérieur de l'arche n'ont été sauvées que les bouches. Vous qui sombrez, écoutez-nous aussi. » J'ai pensé à ce poète russe, Mandelstam, à qui Celan dédie « La rose de personne ». Mandelstam a été, été un poète russe, a été persécuté par le régime stalinien, a été déporté. On raconte qu'il se récitait encore Pétrarque, encore la voix et le poète, avant de s'épuiser et de mourir. Sa femme a sauvegardé son œuvre d'une manière très particulière. Nadejda Mandelstam a tout simplement appris par cœur le plus de poèmes possibles de son mari pour les sauver. Et là, c'est une œuvre qui est logée dans un corps, qui est sauvegardée dans un corps, et qui est donnée par les lèvres. Celan parle de bouche. Et je voulais savoir de quelle manière cette voix de Celan vous interpelle. Est-ce qu'elle vous est familière? Est-ce que ses poèmes proviennent de sa voix, sont tenus dans sa voix?
Pour moi, c'est évident. Je me permettrai de lire quelques lignes de... ce livre sur Celan était pour moi difficile à écrire. Je ne voulais pas faire un livre, disons, de critique littéraire. Je ne voulais pas faire un livre de théorie littéraire. Il était très important pour moi de trouver une certaine légitimité à écrire ce livre. Je suis universitaire, mais je me méfie terriblement de cette immense machine à neutraliser l'histoire qui s'appelle l'université précisément. Et donc je ne voulais pas écrire encore une fois une monographie sur un auteur, etc. Et donc l'idée que j'ai eue, c'est de précéder, il y a 14 chapitres dans le livre, c'est de précéder chacun de ces chapitres de ce que j'appelle une vignette. Et une vignette, c'est un récit autobiographique qui me mettent en scène sur le parcours de Paul Celan. Et je pense que, d'une certaine manière, vous donner ce secret d'écriture, c'est répondre à votre question. C'est-à-dire, effectivement, on doit réagir, on doit répondre à Celan par notre corps, par notre affect, et se laisser bouleverser éventuellement, ou au contraire irriter par la poésie de Celan. J'écrivais donc dans une de ces vignettes qui précède le chapitre intitulé « Deux bouchées de silence », où « Deux bouchées de silence » est une citation d'un poème de Celan. Le silence est extrêmement important dans la poésie célanienne. C'est un silence qui est autant signifiant que la parole qui l'accompagne. On songe au dernier quatuor de Beethoven, pour lesquels le silence est partie prenante de l'écriture. Je disais donc, pour saisir ce qu'est parler dans une langue interdite, sa propre et seule langue, pourtant, il faut avoir entendu Paul Celan dire ses poèmes, les lire, davantage, les faire entendre en abolissant la distance entre les lire avec médiation et les dire sans. Il dit ses poèmes comme quelqu'un qui traduit à vue, ou quelqu'un qui lit le texte d'un autre, ou quelqu'un qui fait semblant de lire mais dit un autre texte. La traduction, et vous y avez fait allusion, est excessivement importante dans les cinq tomes des œuvres complètes parues en Allemagne. Il y a deux tomes qui ne font que reprendre les traductions de Paul Celan, et un tome uniquement les traductions du français. Il traduisait de sept langues, russe, portugais, hébreu, anglais, russe, vers l'allemand, uniquement de la poésie, à quelques exceptions près, depuis le XVIe siècle jusqu'à la modernité. C'est donc un traducteur, et il faut comprendre que la poétique du traducteur et la poétique de l'écrivain ne sont qu'une seule et même poétique, dans la mesure où écrire après Auschwitz ne peut être que traduire. Un événement tel que Auschwitz, et je ne le place pas dans une singularité absolue, il y a d'autres événements qui viennent nous interdire la possibilité de penser comme avant. Auschwitz est un de ces événements. Je pense que dans le destin européen, on ne peut plus penser de la même manière après Auschwitz et avant Auschwitz. Aujourd'hui, ce qui arrive du côté de ce que j'appelle l'exil de masse contemporain fait qu'on ne peut plus penser la migration aujourd'hui comme on le faisait avant. Donc il y a des événements qui sont des événements de rupture totale. Là, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, qui est comme le noyau incandescent de la Seconde Guerre mondiale, fait qu'il y a une rupture. Alors, l'Europe est extraordinaire parce qu'elle peut ignorer les ruptures et faire comme si, et d'une certaine manière, l'Europe a fait, hélas, comme si. Et il y a la poésie de Celan qui nous rappelle qu'on ne peut pas faire comme si. Et en ce sens-là, cette langue de Celan, qui est une langue, comme elle a été présentée tout à l'heure, une langue de la dislocation, une langue de la transformation, une langue qui n'est pas pleine, une langue qui affiche ses blessures, qui affiche ses impossibilités. Cette langue-là est une langue en traduction ou de traduction. Parce que le réel dont entend témoigner Paul Celan, la Shoah, ce réel-là, on ne peut pas en témoigner selon les canaux de témoignage habituels. On ne peut pas en parler comme on parlait auparavant, puisque ce qui est arrivé là vient totalement briser les codes de cognition, les codes d'intellection, je dirais même les codes esthétiques, esthésis, la sensation, le sentiment. On est complètement sidéré, ou comme le disait Maurice Blanchot, c'est un désastre. Désastre, c'est-à-dire que les astres, les étoiles, ne nous donnent plus leur lumière. On est dans le noir absolu par rapport à cette historicité-là. Et donc, on ne peut qu'en traduire. Et je dirais que ce n'est pas du tout un hasard si Paul Celan est traducteur, un immense traducteur. Quand il est poète, il est aussi traducteur. On ne peut pas en parler directement. Comme disait Aaron Appelfeld, un grand romancier pour le coup israélien, qui est né également en Bukovine, donc dans la même région que Celan, et qui reprenait une maxime qui a été, qui est une maxime de la mémoire européenne, je crois Chamfort également, lui, et disait « La mort, c'est comme le soleil, on ne peut pas la regarder directement ». Donc si on ne peut pas la regarder directement, on doit être dans l'oblique.
L'oblique, ouais.
C'est-à-dire dans la traduction. Et le « d'après », pour remplacer le « après », dont parle Jean-Pierre Lefebvre, et il faut signaler le grand travail qu'a fait Jean-Pierre Lefebvre en traduisant cette anthologie, et donc la traduction que j'ai lue tout à l'heure, c'est celle de Jean-Pierre Lefebvre, le « d'après », c'est une posture de traducteur. Un traducteur est toujours après. Mais il n'est pas seulement après, il est aussi d'après. C'est-à-dire que c'est une création. On s'inspire du texte pour recréer, transcréer et produire un autre texte. Vous citiez Mandelstam. La langue de Mandelstam est aussi cette langue rarifiée, cette langue qui réfléchit constamment sur ce qu'elle peut dire et sur ce qu'elle ne peut pas dire. Mandelstam a été traduit par Paul Celan. Et il est important de comprendre que ces corps disparus que vous évoquiez, y compris ceux qui ont disparu dans le goulag, si nous réfléchissons sur la voix de Celan et si j'insiste sur la nécessité d'écouter Celan, c'est aussi parce que, d'une certaine manière, une voix vient remplacer un corps disparu. Ça se passe là, c'est une disparition des corps. Ce qui est horrible, c'est le discours statistique qui dit 6 millions de morts pendant la Shoah, ou bien actuellement 20 000 disparus en Méditerranée depuis l'année 2000. Ces chiffres-là ne disent rien, il faut leur redonner corps, et le corps c'est d'abord la voix, puisque le corps en tant que corps sans voix peut être un corps animal. Le corps vocalisé, c'est le corps de l'humain, c'est celui qui, dans la pensée de Lévinas que je reprends ici, c'est celui qui s'adresse à l'autre. Une voix, ce n'est pas un cri. Un cri peut exister sans récepteur. Une voix, telle qu'elle est véhicule d'une parole, s'adresse à un autre. Donc, insister sur la voix, c'est dire il y a nécessairement une communauté. Il faut que nous parlions ensemble.
Alors, vous avez largement anticipé sur la question à laquelle j'arrivais, qui est effectivement donc cette voix subjective singulière qui s'exprime par le poème, mais qui parallèlement aussi, et vous l'avez bien souligné, s'inscrit et est traversée tragiquement, hein, on l'a évoqué, par l'histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale, celle du nazisme, de la Shoah. Une histoire dont il faut, pour Celan, et malgré l'indicible de l'horreur, témoigner. Ce mot témoin, ce terme, le témoin, le témoignage, apparaît directement dans son recueil. Et effectivement, témoigner par la poésie, c'est quelque part ni à la fois ce qu'on s'attend, forcément, témoigner de l'histoire par la poésie, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un témoignage, qu'on aurait plus l'habitude d'envisager, comme bah, peut-être plus, par exemple, sur les mêmes événements, la même période, Primo Levi, si c'est un homme, ou Kersett, Être sans destin, c'est-à-dire des récits plus linéaires, c'est-à-dire je m'appelle et un tel, je suis né, j'ai vécu ça et je viens en témoigner. Donc on n'est pas dans cette idée, peut-être qu'on attendrait du témoignage, on n'est pas non plus peut-être dans ce qu'on attendrait forcément, ou l'idée qu'on a de la poésie traditionnelle, c'est-à-dire le témoignage de l'histoire, comme ça, très fort et qui porte toute l'œuvre. Donc du coup, voilà, je voulais vous demander comment s'inscrivait pour vous cette idée, cette volonté, voire même cette nécessité qui apparaît et qui s'impose dans l'œuvre de Celan, donc du témoignage.
Je pense que quand je parlais de cette rupture précédemment, cette rupture de tous les cadres, de tous les codes de cognition, d'intellection, de communication, cette rupture-là entraîne la rupture de notre compréhension classique du témoignage. Le témoignage, c'est témoigner de quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est le témoignage tel que la pensée juridique l'a fixé. Pensée juridique héritière de la pensée religieuse, les confessions, le message du christianisme, on témoigne de quelque chose à Dieu. Or, ce qui se passe, c'est que soudain, la conception même du témoignage vient être modifiée par l'historicité dont le témoignage doit rendre compte. C'est-à-dire que être témoin de quoi et devant qui, devant quel tribunal poser ce témoignage. Encore une fois, on est devant une expérience anormale, c'est-à-dire qui dépasse ce que l'on peut entrer dans notre normativité. Un crime peut être normal d'une certaine manière, il peut rentrer dans un processus d'intellection, donc il est normal. Là, on est dans la normalité, dans ce qui échappe totalement aux normes. Donc quel serait le tribunal qui pourrait recevoir ce témoignage, premièrement? Deuxièmement, comment trouver les mots du témoignage, alors que précisément l'expérience dont il faudrait témoigner échappe à ces codes d'intellection, etc., etc. Donc il faut créer un nouveau lexique, une nouvelle langue, par exemple la langue de Tselan. Ce qui me ferait dire que témoigner désormais devient intransitif. Je témoigne, et en témoignant, je suis. C'est-à-dire que si je peux témoigner, cela prouve que je suis après, que je suis un survivant, que tout n'a pas été détruit. Donc c'est un témoignage qui ne cherche pas à rendre compte de quelque chose, mais à fonder une parole. Donc quand je dis que la poésie de Paul Celan est une poésie de témoignage ou du témoignage, c'est en elle-même qu'elle est témoignage. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au service d'un récit de témoignage, elle est témoignage elle-même. D'une certaine manière, Tselan, d'autres également, Duras, Beckett, Rothko dans le domaine pictural, Schoenberg dans le domaine musical, et Beckett, Tselan, Rothko, Schoenberg sont les quelques rares artistes que Adorno précisément reconnaît dans son panthéon. Ce sont des œuvres témoignages, encore une fois des œuvres qui en elles-mêmes sont un témoignage, disent voilà, nous existons, donc il est encore possible d'exister. Alors que d'une certaine manière, nous pourrions aussi ne plus exister, même si nous vivons encore. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut continuer à vivre dans l'horreur et s'en accommoder. Ces œuvres-là arrêtent ce dispositif qui permet de faire avec ou faire comme si, et de dire non, il y a eu de l'horreur, cette horreur-là, nous en sommes après, mais nous devons en hériter. Et ce témoignage, c'est là. D'une certaine manière, au prix d'un jeu de mots facile, je dirais que témoigner dans ce cadre-là, c'est témoigner. C'est-à-dire, ce témoignage-là va dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la négation. De toute façon, je ne peux pas rendre compte. Il n'y a pas une vérité d'Auschwitz. Il n'y a pas une vérité d'un viol. Il n'y a pas une vérité d'un bateau avec 800 personnes qui coulent en Méditerranée. Le régime de vérité ici, parce que comment en rendre compte? Encore une fois, je veux dire, ça dépasse notre compréhension, notre dispositif de pensée. Donc, en revanche, on peut témoigner et dire quelque chose s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que dans toute l'œuvre de Tselan, le référent Shoah ou Auschwitz n'apparaît pas du tout, jamais. La manière dont Tselan parlait de cet événement ou ce non-événement, c'est « Was geschah », ce qui s'est passé. Or, ce qui s'est passé, c'est exactement ça le témoignage. Le témoignage ne va pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé, va nous dire il s'est passé quelque chose. Et c'est énorme dans une société qui voudrait être sourde et aveugle au fait qu'il se soit passé quelque chose.
Je voudrais que l'on fasse un pas de plus justement sur le témoignage avec cette phrase que j'ai pu reconnaître en lisant « Choix de poème »,« Personne ne témoigne pour le témoin ». Alors là, on avance un tout petit peu plus. D'autres mots de ce recueil ont ricoché avec cette phrase. Alors peut-être que j'exagère dans ma lecture, mais je voudrais quand même en parler. Je me demande si le traducteur, ou alors ce n'est que moi, n'a pas joué sur l'homophonie d'un mot. Voilà l'extrait. Et chevelure de Bérénice, ici aussi, je tressais, détressais,
Je tresse, je détresse, je tresse. Et dans ce, quand j'ai lu ce passage-là, dans le « je tresse, je détresse », je percevais d'abord le poète qui faisait le poème, donc « je tresse », et puis le poète qui se retrouvait dans la détresse d'avoir tressé. Et je pensais à la détresse du témoin, de celui qui a été le seul à voir, et qui demande qu'on le croie. Et une note dans l'édition que l'on a dit que le verbe traduit ici, donc en allemand « zerflecht », n'existe pas en allemand. Donc on pourrait même dire que personne n'a témoigné pour ce mot-là, à part ce poème. Et je voulais savoir comment vous aviez compris, pris avec vous cette phrase qui a quand même connu une grande postérité dans l'histoire du témoignage après la Seconde Guerre mondiale.
Alors là, il faut reconnaître ce qui est là une écriture géniale chez Jean-Pierre Lefebvre, ce tresse, détresse, bon, qui n'existe pas en allemand et qui surgit justement en français et qui dit exactement la vérité du vers célanien. On est vraiment dans le cas du témoignage, c'est-à-dire que là, le traducteur témoigne d'un sens. Il ne rapporte pas ce sens, il n'accueille pas ce sens dans la langue française, il témoigne d'un sens qui existe en allemand, il en témoigne avec les moyens de la langue française. Moi-même, je me suis livré à une petite violence quand je traduis ce vers. Alors, effectivement, la grammaire et le code grammatical nous obligeraient à dire « personne ne témoigne pour le témoin ». Or, dans ce livre, dans mon livre, je traduis autrement, je traduis « personne témoigne pour le témoin ». Ce « personne », c'est ce « niemand » du poème psaume que nous avons entendu tout à l'heure. C'est-à-dire « personne qui bon, c'est bien sûr, je veux dire, métaphoriquement, une présence divine, mais comme dit Celan, il n'y a pas d'arrière-ciel. Donc, on peut écarter rapidement toute explication théologique qui viendrait, la souffrance, bon, etc., etc. L'écartons, c'est obscène. C'est obscène, c'était obscène pour Celan. Je crois que ça doit l'être. Bon, je n'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. En revanche, il crée cette espèce de néant. Cette espèce de trou noir qui existe en physique. Donc, d'une certaine manière, on est dans un certain réel. Effectivement, il y a une sidération de la pensée qui fait qu'il y a le réel, et dans ce réel-là, il y a une partie qui échappe au réel. Et cette partie qui échappe au réel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intégrer, nous, dans notre compréhension du réel, cette partie-là, c'est ça qui dit la vérité du réel. On ne peut pas l'ignorer. Le ciel n'est pas forcément bleu. La nuit existe, et ce qui est terrible, c'est que parfois la nuit existe au sein du ciel bleu. D'une certaine manière, la poésie de Celan, c'est ça. C'est de dire, et le ciel, bien sûr, le ciel, et ça, Primo Levi aussi en parle, le printemps arrivait sur les camps de concentration, les oiseaux chantaient, etc., etc. Et en même temps, il y avait le camp de concentration, il y avait ce trou noir au sein du ciel bleu. Et d'une certaine manière, le personne, le niemand dont parle Celan, c'est reconnaître ce trou noir dans le réel qui fait que le réel n'est plus du tout ce que nous connaissions comme réel. Et donc je traduis la phrase en disant « personne témoigne, ce trou noir vient authentifier, vient garantir, vient légitimer la parole du témoin ». Et donc ce témoignage-là, encore une fois, n'est pas tant le témoignage de quelque chose, mais un témoignage en soi, et par exemple le témoignage qu'il existe ce trou noir, et qu'ignorer ce trou noir est une faillite à la fois individuelle et collective par rapport à l'histoire.
Alors, on va là aussi faire honneur au principe de cette émission, puisque nous avons chacune choisi un poème pour donner à entendre aussi nos expériences de lecture. Alors, Erika, avant que l'on commence, tu hésitais encore sur quel poème lire à nos auditeurs. Est-ce que maintenant tu as fait ton choix ?
C'est bon, j'ai fait mon choix.
Alors on t'écoute.
Donc ce sera Compte les amandes. Compte les amandes, compte ce qui était amer et ta tenue en éveil. Compte-moi au nombre de tout cela. Je cherchais ton œil quand tu l'as ouvert et que personne ne te regardait. J'ai tourné ce fil secret sur lequel la rosée que tu pensais a glissé en bas jusqu'aux cruches que protège une formule qui n'a trouvé le cœur de personne. C'est là-bas seulement que tu es entré tout entier dans le nom qui est le tien, que tu as marché d'un pied sûr vers toi-même, que les marteaux se sont balancés librement dans le beffroi de ton silence, que le tout juste entendu est soudain venu jusqu'à toi, que le déjà mort t'a aussi entouré de son bras, et vous êtes allés trois en un dans le soir. Rends-moi amer, compte-moi au nombre de tes amandes. Alors, pourquoi ce poème ? C'est pas facile d'enchaîner juste derrière. Pourquoi ce poème ? D'abord parce qu'il m'a parlé, et surtout il m'a parlé sans que pourtant j'arrive tout à fait à le comprendre. Et finalement, c'était aussi peut-être cela qui était représentatif, le plus représentatif de mon expérience de lecture de Célane, puisque une nouvelle fois, je suis un petit peu novice aujourd'hui dans cette expérience de lecture. Je ne connaissais pas beaucoup l'œuvre de Célan, et finalement, ce que j'ai découvert dès les premières pages de ce recueil, c'est peut-être et avant tout une langue. Et une langue qui désarçonne, qui reste souvent très obscure et très éclatée. Alors, je pense qu'on l'entend à la lecture, mais cette langue éclatée et déconstruite se voit aussi très visuellement sur les pages du recueil. Et c'est vrai que ça peut être assez déconcertant, surtout quand on revient à cette idée de témoignage, comme j'avais expliqué. Là, effectivement, on a des poèmes pour le témoignage. Et en plus, ce sont des poèmes auxquels on ne comprend pas forcément tout. Par contre, c'est vrai qu'en revanche, c'est vrai qu'on se rend compte très rapidement, quand on tourne les pages, qu'il y a des images qui reviennent. La pierre, là dans le roman, on entend l'œil. Il y a la chevelure aussi. Il y a ce personne qui résonne souvent. Et c'est comme ça que, sans comprendre, il y a comme des réseaux qui se créent et des échos qui se font entendre, qui se font de plus en plus nombreux. Et on a vraiment l'impression, du moins c'est celle que j'ai eue, qu'il y a vraiment quelque chose qui se tient et qui se tient de très fort, d'extrêmement tissé dans cette œuvre et de presque compact, j'ai envie de dire, malgré par exemple la présentation très, très, très espacée dans le recueil, quelque chose de compact et auquel on ne comprend pas tout. Mais donc j'ai un peu fini en disant... faudrait peut-être que je relise, que j'y revienne plus tard pour... voilà. Donc je voulais vous demander, à vous, lecteurs bien plus avertis que moi, comment est-ce que, dans votre parcours, vous avez-vous abordé cette langue qui peut résister, justement, à notre compréhension ?
Je ne crois pas que je suis plus averti. Je crois que devant un poème de Celan, nous sommes toujours dans une espèce d'innocence et nous le redécouvrons. C'est le fait de n'importe quelle grande œuvre, qu'elle soit musicale, qu'elle soit picturale, qu'elle soit littéraire. Michael Hamburger, qui était un des premiers traducteurs en anglais de Paul Celan, un jour a confié à Celan, mais vous savez, il y a certains de vos poèmes, on a du mal à les comprendre. Et la seule réponse de Celan, c'était lisez et relisez, lisez et relisez. On peut se souvenir que on rapporte une anecdote à propos de Picasso, un vernissage d'exposition, et une espèce de bourgeoise parisienne qui s'approche de lui et qui lui dit « Maître, vous êtes un grand peintre, mais parfois je ne comprends pas votre peinture. » Et Picasso de l'interrompre et de lui dire « Et est-ce que vous comprenez le chinois ?» Et donc la dame de dire « Ben non, pas du tout. » Et Picasso de lui dire « Bien, apprenez. » Je crois qu'effectivement, il y a la nécessité d'apprendre. C'est effectivement une nouvelle langue, c'est une langue en soi. Je crois qu'on doit l'apprendre comme on apprend une langue étrangère. Et on le sait, le meilleur moyen d'apprendre une langue étrangère, c'est de la parler. On se débrouillera ensuite avec la grammaire, les règles de la grammaire, de la syntaxe, etc. Ça, c'est de la parler. Et je crois qu'il y a effectivement cette nécessité, vous avez raison, et je trouve votre lecture très très émouvante. C'est avec le corps, c'est avec l'affect qu'on pénètre dans cet univers-là, ou qu'on se laisse pénétrer par cette voix, encore une fois, de Celan. Donc le ne pas comprendre fait partie du poème. D'une certaine manière, ce que nous dit le poème de Celan, c'est qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre. C'est que dans la communication humaine et dans le rapport de l'être humain au monde, il y a nécessairement des zones d'incompréhension. Et vouloir tout comprendre, c'est une violence. Et j'hésiterai pas à dire c'est une violence totalitaire. C'est-à-dire il y a un acte fascisant dans la volonté de vouloir tout comprendre, tout contrôler. Il y a là quelque chose dans la poésie de Celan qui nous invite à la modestie. L'ambiguïté de l'amande, par exemple. L'amande, c'est à la fois la douceur de l'amande que l'on trouve dans des gâteaux, notamment des gâteaux d'Europe centrale. Mais l'amande, c'est aussi l'amertume, le poison et par exemple les gaz dans les chambres à gaz avaient cette amertume-là. Donc cette amande-là, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que et puis l'amande, c'est aussi la mandorle, c'est la forme ovale dans laquelle il y a une représentation du religieux, etc. Bref, on est obligé d'être actif. Et dans le poème que vous avez lu, il y a cette formule extraordinaire, entrer dans un nom. Qu'est-ce que ça veut dire, entrer dans un nom ? Un nom, nous l'avons à notre naissance. Non, précisément, cela nous fait comprendre dans ce vers que notre identité, elle doit être regagnée à chaque instant. Notre nom, nous devons d'une certaine manière le mériter. Et ce mérite-là n'est pas un mérite qui nous advient par la grâce du ciel. Non, il faut rentrer dans le nom. Ce qui veut dire que cette poésie n'est pas du tout une poésie du désespoir. On ne va pas s'asseoir dans un coin de la chambre et pleurer. Non, il faut être actif. Il faut être actif. Et je crois que cette action-là, c'est aussi l'action du lecteur de la poésie de Celan.
Je vais passer la parole à Élodie, peut-être rebondir sur cette aussi idée d'apprendre la langue que j'ai trouvée très belle, apprendre la langue de Celan et qui peut-être fera écho avec le poème choisi par Élodie qui est donc l'invité et qu'elle va nous lire à son tour.
C'est bien avant le soir qu'entre chez toi celui qui a échangé le salut avec l'obscurité. Et bien avant le jour, qu'il s'éveille et attise avant de partir un sommeil résonnant de pas. Tu l'entends traverser à grandes enjambées les lointains et lance au loin là-bas ton âme. Alors c'est vrai que moi aussi j'ai choisi un poème qui presque raconte ma propre expérience de lectrice de poésie en fait, pas seulement de Celan. Pour moi, le poète serait cet invité. Quelqu'un que l'on accueille et quelqu'un qui s'échappe sans cesse. Quelqu'un que l'on fréquente, pour rebondir sur cette idée de revenir lire cette poésie. Et en même temps, il y a un paradoxe que je voulais partager avec vous. Cette idée que cet invité s'en va, mais qu'au moment où il s'en va, on lui lance notre âme. Ça m'a fait penser à un poète français que Celan a traduit, René Char, qui parlait dans un poème de ce passant courtois qui brusque les adieux. Et j'avais été un peu scandalisée par cette phrase, parce que je trouvais que c'était pas courtois du tout de brusquer les adieux. Et dans l'invité, je retrouve cette tension entre l'hospitalité qu'on offre et contre toute attente, l'hospitalité que le poète ou le poème nous offre aussi. Comme si il n'était pas question de dire « plus je le lis, plus je le comprends », mais de dire « plus je le lis, plus il me comprend, plus il me prend avec lui, alors que lui reste insaisissable ». Est-ce que c'est un paradoxe qui vous touche ? Est-ce que vous êtes familier avec ce paradoxe qui finalement place le lecteur, le poète régulièrement sur le seuil ?
Je rappellerai qu'un des recueils de Paul Celan s'intitule « Von Schwelle zu Schwelle », c'est-à-dire « de seuil en seuil », comme si nous n'étions jamais que sur des seuils. Le seuil est une notion spatiale intéressante. Un seuil de porte, finalement, c'est assez mineur. Il y a la porte, c'est ça qui est important. Non, le seuil, on s'arrête. Immédiatement, on s'arrête. Même une fraction de seconde, le seuil, on s'arrête. Et dans cette fraction de seconde-là, il y a le respect absolu, la courtoisie dont il a été fait question, cette courtoisie devant l'inconnu, tout simplement. Le seuil nous oblige à ne pas faire violence à l'espace qui s'ouvre devant nous. Le seuil nous oblige à réfléchir, encore une fois, une fraction de seconde à ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est du côté de celui qui vient, de celui qui reçoit, celui ou celle qui reçoit. Il y a là cette nécessité, et là, je renverrai à toute une pensée qui désormais fait partie, je crois, de notre horizon philosophique, celle de Lévinas, celle de Derrida, qui introduit la notion de inconditionnalité. Nous devrions agir de manière inconditionnelle. Nous devrions offrir notre hospitalité de manière inconditionnelle. Nous ne devrions pas demander à celui qui vient, à celui à qui nous accordons l'hospitalité, comment il s'appelle, d'où il vient. Ce que justement la politesse nous oblige à faire. Être poli, accueillir quelqu'un, c'est dire ben, comment vas-tu, d'où viens-tu, etc. Mais c'est déjà vouloir le connaître. C'est déjà vouloir avoir prise sur lui. C'est déjà vouloir faire l'affirmation d'une autorité que lui n'a pas. Très souvent, je choque mes étudiants en rappelant que Lévinas disait « Aimer quelqu'un, c'est ignorer la couleur de ses yeux. » Et en général, les étudiants disent « Mais non, pas du tout. Aimer quelqu'un, c'est connaître toutes ces taches de rousseur, le grain de beauté qu'il a ou qu'elle a sur la fesse gauche, etc. » Et Lévinas nous dit « Parce que connaître la couleur des yeux, c'est déjà le cataloguer, c'est déjà l'enfermer dans ma connaissance que j'ai de lui. Or, l'autre, aimer l'autre, c'est toujours accueillir en permanence l'autre et ne pas savoir comment il s'appelle, quelle est la couleur de ses yeux. » Et donc l'hospitalité, c'est... Alors là, ça serait l'hospitalité inconditionnelle dont parle Derrida. Malheureusement, l'hospitalité, elle a aussi des conditions. Pour citer une phrase, actuellement, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde en France, par exemple. Et nous dit Derrida, l'hospitalité, c'est cette négociation entre l'inconditionnalité qui devrait présider à notre geste et les conditions qui sont les nôtres. Mais ne pas oublier cette inconditionnalité-là et ne pas se renfermer uniquement, voilà, les conditions font que je ne peux pas accueillir plus que je n'accueille, en se souvenant que je pourrais accueillir toute la misère du monde. Je ne le peux pas, mais je dois me souvenir que je pourrais, et donc je dois ouvrir mon accueil. Et d'une certaine manière, le seuil, c'est donc celui qui vient et qui me permet de me souvenir, d'avoir conscience de cette inconditionnalité-là, que je pourrais accueillir toute l'humanité, ce qui est totalement impossible. Et d'une certaine manière, l'hospitalité du poème de Celan à l'endroit de celui qui lit le poème de Celan, c'est aussi cette hospitalité maximale, c'est-à-dire tout le monde devrait comprendre la poésie de Celan, et en même temps, on ne le peut pas, nous sommes à chaque fois un seul lecteur, une seule lectrice, et dans cet acte individuel, il y a la générosité du poème de Celan qui peut accueillir toutes les lectrices et tous les lecteurs.
Alors très rapidement, vos propos font écho à une dernière question que l'on voulait vous poser, puisqu'ils font écho à la fois à Celan et à la fois à vos propres recherches actuelles, à vos propres domaines de travail, puisque il y a effectivement cette idée de déplacement qui est très forte, cette idée de passage, de seuil en continue. Et d'ailleurs, les lieux d'un déplacement, c'est le titre que vous avez donné à votre ouvrage, donc ce n'est pas anodin. Mais effectivement, cette image du poète qui se et qui nous déplace m'a fait penser à l'exergue d'un des poèmes du recueil qui dit « Tous les poètes sont des juifs », en reprenant les mots de la poète russe Marina Tsetsaïeva. Or, le juif par excellence, c'est l'exilé aussi, c'est la diaspora, l'exil. Et est-ce que vous pensez que ça pourrait être dans ce sens-là que l'on puisse comprendre cet exergue? Et si oui, finalement, quand on pense au parcours de Celan, exilé géographiquement et même linguistiquement, puisqu'il parle la langue d'un pays où finalement il parle et il écrit dans la langue d'un pays où il n'a finalement jamais vécu, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Celan est justement une figure particulièrement forte de ce poète exilé?
Une simple précision, en Bukovine, on parlait allemand. Donc il a grandi dans un milieu germanophone. La question est essentielle. Qu'est-ce que veut dire être exilé? Est-ce que l'exil, c'est l'exil de quelque part? Ou est-ce que, de la même manière que je disais tout à l'heure, qu'on peut dire être témoin, sans être témoin de quelque chose, mais être témoin, est-ce qu'il ne faudrait pas concevoir l'exil comme une catégorie humaine fondamentale, être exilé? Sans que l'exilé qui dit « je suis exilé », on se sente obligé de lui dire « mais tu es exilé d'où ?» le respecter en tant qu'exilé, c'est-à-dire avoir une pensée non pas du territoire qui donnerait l'appartenance, je suis quelqu'un parce que je suis de quelque part, mais je peux être quelqu'un même si je suis de nulle part, c'est-à-dire je suis dans l'exil absolu. Le désert, par exemple, et je sais, Elodie, que vous avez beaucoup travaillé sur Jabès, Jabès nous permet de comprendre que le désert est un lieu. Ce n'est pas un anti-lieu, le désert est un lieu qui doit être habité, certes de manière différente, mais qui est un lieu qui existe. Et en ce sens-là, l'exil est aussi une manière d'habiter, une manière d'inventer de nouvelles territorialités. L'exilé, par exemple, et là, dans l'expérience concrète, l'exilé, c'est celui qui a une double appartenance spatiale. Il vit ici, mais en même temps, en lui-même, il vit ailleurs. Pour prendre un exemple de grand exilé, Joseph Brodsky, poète russe exilé aux États-Unis, prix Nobel de littérature, il écrit un livre sur Venise, et en fait, il écrit un livre sur Saint-Pétersbourg. Et dans son livre, Saint-Pétersbourg et Venise ne font qu'un seul lieu. Donc il y a cette pensée du lieu totalement différente, où effectivement plusieurs lieux peuvent se juxtaposer, et l'exilé est celui qui dit « je peux vivre dans plusieurs lieux à la fois ». En ce sens-là, Tselan, effectivement, est un exilé. Il arrive en 48 à Paris et il y restera jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au suicide en 1970. Donc il est exilé, effectivement, mais il est aussi exilé de la langue allemande, puisque sa langue allemande, à lui, celle de son écriture, n'est pas la langue allemande telle que elle se parle de manière normative, donc il y a un exil. Sa poésie est une poésie qui témoigne d'un exil par rapport aux normes de la littérature. On ne peut pas recevoir, et moi l'énoncé, Paul Celan est le plus grand poète allemand depuis Rilke, par exemple, est un énoncé qui m'irrite profondément, parce que c'est comme s'il y avait, encore une fois, une continuité de l'histoire de la littérature, de la même manière qu'il n'y a pas une continuité de l'histoire, qu'il y a des moments de rupture radicaux, dans l'histoire de la littérature, il y a des moments de rupture qui sont pareillement radicaux. Donc cette notion d'exil, c'est une notion qui ne doit pas être négative. Encore une fois, c'est être autrement, c'est vivre autrement. Lévinas, être autrement, autrement qu'être, Lévinas disait « le chez-soi n'existe pas ». Parce que quand je me dis « je suis chez moi », qu'est-ce qui me prouve que ce « chez moi » ne vient pas effacer un autre « chez moi », celui ou celle qui était là auparavant ? Donc je ne dois jamais être dans la quiétude de mon « chez moi ». Peut-être que j'occupe la place qui ne me revient pas. L'exilé, c'est celui qui nous rappelle constamment que nous sommes dans nos « chez soi », mais que ces « chez soi-là » sont tout à fait relatifs et que nous devrions réfléchir à cette fragilité-là. Ce qui se passe actuellement en Europe, et d'une certaine manière, lire Tselan, c'est aussi être capable de prendre la poésie de Tselan et ce qu'elle vient nous dire, de pouvoir l'appliquer à ce qui se passe aujourd'hui. Tselan est un exilé absolu, je dirais, comme il est un témoin absolu. Mais c'est absolu me dérange parce que on est du côté d'une certaine transcendance. Je veux dire, c'est un témoin intransitif, un exilé intransitif. Être exilé, non pas être exilé de. Être un témoin et non pas témoigner de. Et d'une certaine manière, avoir cette image de l'exilé nous permettrait aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Ne pas considérer que ceux qui arrivent, ceux qui sont prêts à risquer la mort, et ça c'est tout à fait inédit dans l'histoire des migrations, ceux qui arrivent vers les portes de l'Europe sont des exilés, non pas des exilés d'eux, mais des exilés, c'est-à-dire une catégorie humaine et une catégorie sociale fondamentale, une modulation de l'être qui ne correspond pas effectivement à l'être citoyen ou à l'être de quelque part. Et donc si on accepte de lire Tselan dans cette perspective-là, nous comprenons quelque chose de l'aventure ou de l'expérience de l'exil et ce qui nous permettrait de réagir différemment à l'historicité de l'exil de masse contemporain.
Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous allons, sur ces paroles ou presque, conclure cette dernière émission de l'année. D'abord, on voulait dire un grand merci à Sébastien, à Jean-Baptiste, à Pauline aussi, qu'on remercie jamais, mais qui est par là et qui nous suit toujours sur le livre de Frog. Et puis nous allons finir cette émission. Élodie va vous expliquer comment.
Oui, on a commencé avec la voix de Célan, on va finir avec la voix de Célan, avec une lecture de Célan du poème qui s'appelle Fugue de mort, mais on va commencer avec au moins une partie de la traduction, Alexis, que vous vouliez nous lire. Donc je vous en prie.
Alors j'en profite pour vous remercier de cette invitation et de ce partage que nous offrons et que nous offrons aux auditeurs. Dire un mot sur cette fugue de mort qui est un des poèmes les plus narratifs, je dirais, et les plus explicites de Celan, au point que l'Allemagne, au lendemain de la Seconde Guerre, en a fait presque un texte canonisé. On le récitait dans les écoles, on enseignait la Shoah, les camps en citant, etc., etc., au point que Celan n'en pouvait plus et était presque prêt à interdire la lecture de ce texte-ci parce qu'il banalisait d'une certaine manière l'expérience. Or, ce qui est notre historicité nous invite et nous autorise, je crois, à reprendre ce poème-là et à l'entendre par rapport à notre historicité. Je vais ici simplement lire dans la traduction de Jean-Pierre Lefebvre la première strophe. Les noirs de l'aube. Nous le buvons le soir, le buvons à midi, et le matin nous le buvons, la nuit nous buvons et buvons, nous creusons dans le ciel une tombe où l'on n'est pas serré. Un homme habite la maison, il joue avec les serpents, il écrit quand il va faire noir en Allemagne, Margaret, tes cheveux d'or, écrit ses mots, s'avance sur le seuil et les étoiles tressaillent. Il siffle ses grands chiens, il siffle, il fait sortir ses juifs et creuser dans la terre une tombe. Il nous commande, allons, jouez pour qu'on danse. Les noirs de l'aube, nous te buvons la nuit, te buvons le matin puis à midi, nous te buvons le soir, nous buvons et buvons.
Todesfuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr andern spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr andern spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit.
Le livre de Frog.
Littérature, livre, invité.
Le livre de Frog.